Alors, on va aujourd'hui présenter notre invitée. Elle s'appelle Ilana. Bonjour Ilana.
Bonjour.
Donc, tu es une élève de collège.
Oui.
Et tu es venue faire un petit stage à Radio Campus.
C'est exact.
Alors, ça arrive assez souvent que nous accueillons des élèves de 3e. Et souvent, ils ne viennent pas par hasard à Radio Campus, enfin dans une radio déjà. Est-ce que tu peux expliquer tes motivations au départ pour demander ou taper à la porte de la radio ?
Bah, en premier lieu, c'était parce que j'écoutais souvent la radio chez moi.
Oui.
Et je me posais la question de comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait derrière les micros, comment ça se passait pour les enregistrements, qu'est-ce qui se passait quand la musique était envoyée, qu'est-ce que faisaient les animateurs radio. Je me posais plusieurs questions, donc j'ai décidé, j'avais l'opportunité de pouvoir voir réellement ce qui se passait, donc j'ai pris l'opportunité.
Mmh. Alors, la radio, c'est un média qui est encore écouté, on va dire ça, qui bénéficie peut-être d'un capital confiance relativement correct. Par contre, les jeunes générations ont tellement de choix maintenant pour écouter notamment de la musique ou des podcasts que l'offre par rapport à donc l'audience, c'est tant accru. On pourrait penser que la radio est peut-être moins tentante pour des jeunes. Toi, tu as l'air intéressé. Comment tu ressens l'originalité peut-être de la radio et sa spécificité?
Pour moi, la radio, c'est mieux que d'autres moyens de se divertir, par exemple, parce que on entend vraiment des personnes discuter, débattre sur des sujets assez actuels le plus souvent. Et ça, c'est direct, c'est une discussion entre deux personnes qu'on peut regarder, qui débattent. Je trouve ça très intéressant.
Alors, tu dis regarder, effectivement, de plus en plus de radios s'équipent de caméras pour que les gens, en plus de la radio, puissent suivre un petit peu la vie du studio, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est un plus ou peut-être quelque chose qu'il ne faut pas forcément utiliser?
Je pense que c'est un plus pour des personnes qui se posent des questions, qui ont des interrogations sur, comme moi par exemple, la raison pour laquelle j'ai postulé pour faire un stage de 3e dans une radio, qui est de voir comment ça se passe, comment est présenté un studio radio. Et pour juste répondre à certaines questions, je pense que c'est bien.
Donc si je résume un petit peu ton propos, tu voudrais dire qu'à voir les images de studio de chez soi, ça peut donner envie de mieux s'intégrer ou peut-être de mieux écouter déjà la radio. Ça donne un accès peut-être, une meilleure compréhension qui permet aux auditeurs aussi, en regardant ce qui se passe dans les studios, d'avoir une envie supplémentaire.
Oui, je pense.
Voilà, donc tu nous inciterais peut-être à évoluer dans ce sens-là, qu'il y ait des moments où il y ait des parties en vidéo sur des plateformes.
Oui, mais je pense que ce serait pas bien si ce serait, si on faisait trop, si tout était filmé toujours, je pense que ce serait pas bien non plus. Faudrait doser.
Oui. Comment tu vois les avantages et les inconvénients avec ou sans ?
Sur les avantages, je pense que juste pour avoir une certaine ouverture d'esprit, pour voir comment ça se passe. Et après, les inconvénients, ce serait un certain mystère qui ne serait plus là. Plus présent lorsqu'on regarde, qu'on écouterait la radio. Donc, voilà.
Mmh. Donc, toi, tu as un petit peu perçu, en arrivant ici, le mystère de la radio qui t'échappait peut-être encore un peu ?
Oui.
Comment tu le résumerais, ce mystère, s'il fallait le décrire sans trop le rendre public, si jamais on voulait le préserver un peu ?
Stupéfaite. Si je devais donner un adjectif, ce serait ça.
Voilà, donc effectivement, le mystère par rapport à la vision qui n'est pas restituée par la radio, c'est que des gens ont un autre comportement quand ils sont dans la radio que quand ils seraient captés en vidéo. Donc ils sont dans d'autres ambiances et d'autres préoccupations que ce qu'on imagine un studio où chacun fait attention à son image, etc.
c'est le vrai visage de ce qui se passe, enfin d'une personne. Parce qu'on entend sa voix, mais on ne sait pas réellement ce qu'il fait, ses expressions. On ne peut pas les avoir.
Et la part de mystère pour certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, par exemple, on peut être très dérouté par une personne qu'on a entendue et qu'on voit en vrai. Il peut y avoir un vrai décalage entre la voix et l'image du corps ou du physique de cette personne. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir une visualisation des visages, ça peut amener certaines personnes à être plus, d'une certaine manière, plus facile à écouter?
Oui, je pense. Parce que quand on regarde une personne, on pourrait avoir des préjugés sur cette personne. Comme quoi, que ce soit physique, la personne, sa posture ou quoi que ce soit, ça pourrait nous dissuader. On fait « Oh non, cette personne, j'aime pas comment elle fait ça ou ça. » Et on pourrait ne plus écouter juste pour ça.
Alors, tu as peut-être pu le ressentir ici avec le peu de personnes que tu as vues, mais au-delà de l'antenne, il y a des relations entre les animateurs, par exemple, et des réflexions aussi qu'ils échangent quand ils se voient, sur des préoccupations, des sujets de société.
Oui, j'ai pu l'observer plusieurs fois même. c'est tout le temps quand je peux voir par exemple les animateurs se croiser. Je peux voir leurs discussions qui sont très intéressantes sur des problèmes de la société parfois. Vraiment pour quelqu'un qui n'a pas assez de culture ou autre chose, c'est très intéressant.
Est-ce que dans ce que tu as perçu dans les propos des personnes que tu as entendues, pas à l'antenne mais dans les studios, est-ce que tu ressens un décalage entre leurs propos et ce qui est restitué par eux ou par d'autres au travers de la radio en tant que média? Est-ce que tu sens des sujets qui ne sont pas forcément abordés ou peut-être pas faciles à aborder dans une radio ou à n'importe quel moment? Est-ce que tu sens des sujets qui t'ont semblé intéressants et qui mériteraient peut-être d'être développés comment tu ressens les choses?
Je pense que oui, il y a des sujets qui sont dits sans être filmés ou enregistrés, qui nécessiteraient peut-être d'être filmés ou enregistrés. Des sujets, en fait, c'est surtout les sujets, je pense, sur les problèmes de la société qui ne seront pas évoqués en radio pour être enregistrés. Tout simplement parce que ça pourrait créer des problèmes, des commentaires haineux, par exemple, qui pourront être faits, et ce que nous voulons éviter.
Donc, effectivement, on ne peut pas tout dire à la radio. Ça, c'est une règle. On essaie de dire ce qui est déjà ce. On essaye de dire ce qui est vrai, qu'on pense être vrai, ou ce qu'on pense être juste parfois aussi, ce qu'on ressent aussi de notre part comme étant légitime d'exprimer aussi. Chacun a son univers, en fait. Chaque animateur a sa façon, sa vie et son expérience. Il en témoigne parfois, mais je pense que l'idée aussi, c'est, selon les sujets, de puiser pour chaque animateur ou chaque personne qui intervient dans tout ce qu'il a pu étudier, analyser avant, hors micro, pour, à un moment donné, se servir de toute cette expérience et de tous ces échanges pour avoir... sur des sujets importants, un regard un peu plus riche que ce qu'on en aurait si on ne discutait pas entre nous, quoi.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Donc les temps d'échange, que ce soit entre animateurs ou dans la société, sont importants. Et comment tu vois cette période où on était beaucoup isolés socialement, où les gens sont restés cloîtrés, restés chez eux ou n'ont pas pu accéder à tout. Est-ce que c'est un moment qui te semble problématique, justement, pour faire germer les idées et les échanger et peut-être, est-ce que la richesse de ce qu'on entend dans les médias ou ailleurs n'a pas été un peu réduite, justement, faute d'échanges et de réflexions communes?
Je pense qu'en fait, il y avait des radios qui diffusaient, qui débattaient en effectif plus réduit. Du coup, les débats étaient moins était ça échangeait moins, c'était plus la même chose. Mmh. Et certaines personnes qui étaient confinées chez eux mmh. n'avaient que ce point de vue-là mmh. et ne pouvaient pas avoir un autre point de vue pour se faire son propre avis. Mmh. Donc lors de débats, par exemple, entre amis, lorsque le confinement fut fini, mmh. leur avis n'était pas fondé. Ils avaient juste écouté quelqu'un dire quelque chose à la radio et ça avait suffi à leur faire leur avis. Mmh.
Est-ce que tu penses qu'on était sur un chemin où il était difficile de contrer un propos entendu, puisque le manque d'expérience et d'échange avec d'autres personnes rendait difficile le jugement?
Oui, pour avoir sans empêcher l'échange d'avis, d'avis sur un certain sujet, et une personne ne pouvait se baser que sur, par exemple, un avis d'une personne et n'avait pas d'autre avis pour se fonder son propre avis à lui-même.
Alors, bon, à mon âge, je bénéficie d'une expérience préalable. Toi, tu es jeune, tu as peut-être mm-hmm. combien, 14, 15 ?
14 ans.
14 ans. C'est 2 ans de ta vie, en fait, qui ont été un peu mises entre parenthèses. D'accord ? Mm-hmm. Qui ont été mis entre parenthèses. Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir été assez nourri, justement, d'échanges et de contacts avec les gens qui te permettraient d'évoluer plus vite dans certains domaines ?
Oui, je pense que c'était 2 ans un peu coupés du monde, mmh. où j'avais par exemple juste ma famille proche avec moi. J'ai pu, on communiquait entre nous, mmh. j'ai pu avoir certains de leurs avis, mais pas plus. J'ai pas pu vraiment avoir un certain avis sur des sujets. Et ça a été assez problématique pour quand je suis revenue et que certains professeurs nous demandaient une certaine culture qu'on mmh. ne pouvait pas avoir. Le confinement étant passé.
Donc effectivement, la culture est quand même, en plus de l'aspect, on va dire, didactique et aussi de documentaire, etc., c'est aussi de la relation humaine, parfois, d'échange, d'idées.
Ouais, oui.
À quelle personne tu es le plus sensible en termes d'idées ? Avec qui tu aimes bien, enfin, avant ces 2 ans hein, ou peut-être encore maintenant, si tu es en capacité, avec qui tu aimes bien discuter en général ?
Des amis qui ont une certaine culture, ouais. à qui je peux parfois parler de sujets de société ou quoi qu'est-ce, et c'est très intéressant de parler de ces sujets avec elles. Mmh.
Est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées hein, de thèmes ou de sujets qui les passionnent ou qu'ils aiment bien aborder au travers de vos conversations?
L'égalité des sexes, on en a plusieurs fois parlé, mmh. De problèmes qu'on a, enfin, on donnait des exemples mmh. Qu'on avait pu observer. Et aussi, nous avons évoqué le sujet d'autres sujets qui n'avaient pas vraiment par rapport avec des problèmes de société, mais tout aussi intéressants. Mmh.
Est-ce que tes amis, d'une manière générale, ont une vision optimiste de l'avenir ou pessimiste ?
Plutôt pessimiste.
Est-ce que c'est lié à la nature des personnes ou aux circonstances ?
Aux circonstances. Le fait qu'elles aient été pendant près de 2 ans mmh. vraiment enfermées dans un certain cadre, mmh. on ne pouvait pas voir le bout de ces 2 ans, on ne savait pas quand ça allait finir, à chaque fois qu'on pensait que c'était fini. On retombait dans un confinement, on n'avait plus, parfois plus d'espoir de pouvoir réellement vivre libre.
Mmh. Et donc, est-ce que ces personnes-là, tu as l'impression qu'elles sont plus pessimistes qu'avant ou elles ont eu un moment de parenthèse où elles ont du mal à réfléchir et à se projeter.
Je pense qu'on a tous des difficultés à se projeter. Mmh. On ne sait pas vraiment comment... Avant le confinement, elles avaient plusieurs objectifs. Je vais faire telle étude pour faire ça. Et maintenant, elles ont des doutes sur vraiment si c'est ça qu'elles veulent faire. Un manque de confiance qui est né et qui n'était pas là avant. Pour toutes. Mmh. Voilà.
Actuellement, on assiste quand même à, on va dire, à, une baisse de la tension par rapport au Covid, je vais dire ça comme ça, qui pourrait déboucher sur une absence de problème dans un an, par exemple. Est-ce que tu crois qu'on reprendra la vie comme on l'avait vécu avant, ou est-ce qu'il y aura de grosses modifications qui sortiront de cette épreuve ?
Je pense qu'il y aura beaucoup de modifications. Certaines personnes voudront faire beaucoup de choses et d'autres seront assez... auront des difficultés à aller dans certains lieux, à sociabiliser avec des personnes, à communiquer. Et ces personnes, avec des personnalités totalement différentes, qui ne partaient pas de ça avant, vont modifier un peu la société, ce qui va être dans leur futur métier, et ça ne va pas être la même chose.
Mmh. Tu as l'impression que la capacité d'initiative, sinon d'entreprise, se perd à partir de ces difficultés actuelles ?
Oui, ouais, tout à fait.
Donc si on veut recréer un monde dynamique, comment tu vois les choses ? Alors, est-ce que pour toi, moderne, ça veut dire quelque chose, par exemple ?
Plus maintenant.
Ça change ?
Oui.
Tu t'es rendu compte, enfin, je ne sais pas, je ne voudrais pas présumer, que la modernité n'est pas forcément ce qu'on considère être un progrès ?
Oui, je pense. Avant, modernité, c'était plus, pour moi, le futur, l'amélioration. Mm-hmm. Maintenant, c'est certes le futur, enfin, pas spécialement d'ailleurs, mais c'est moins nouveau. C'est plus... on reprend des choses qui sont déjà été produites, par exemple, et on les réutilise. En les changeant un peu.
Est-ce que tu penses que pendant 2 ans, on a subi quand même des règles nouvelles, complètement imposées ? Est-ce que tu penses que ça nous fait perdre la capacité d'initiative, par exemple ?
Oui. Certaines personnes, je pense qu'elles se poseront des questions. Sur certaines actions qu'elle ferait normalement si ces restrictions n'avaient pas été faites. Comme par exemple juste sortir de chez soi et voir des amis. Certaines personnes pourront se poser des questions en se disant est-ce que vraiment ça la dérange cette personne par exemple de sortir, se questionner ça ne serait pas arrivé si des restrictions aussi dures n'avaient pas été mises.
Est-ce que tu as l'impression que l'élan vital d'une société ou de gens qui vivent dans cette société a été un peu coupé et qu'ils ont du mal à se projeter dans une construction de choses nouvelles et du fait qu'on leur a imposé des modes de fonctionnement qui justement restreignent ou ont restreint leur capacité d'agir ?
Oui. Je pense que leurs capacités d'agir ne seront plus pareilles après ces 2 ans de confinement.
Même après le Covid, tu penses qu'on aura du mal à remettre les choses comme elles étaient en ordre, plus ou moins de marche avant ?
Je pense que c'est possible, mais certaines choses auront changé définitivement et ne pourront pas être remises en place.
Quels sont les rêves pour toi, hein ? Qui aurait disparu depuis 2 ans ?
Tout simplement pouvoir sortir librement, sans masque par exemple.
Ça peut revenir.
Oui, c'est ça le problème, c'est que ça peut revenir, mais après on ne sait pas réellement si d'ici là ça va, c'est peut-être ça pourrait revenir.
Donc je ne sais pas si tu as envisagé un jour d'aller à l'étranger. Pour étudier.
J'ai pour projet, oui.
C'est pas impossible. Donc, il y avait tout un système d'échange, Erasmus, etc. Tu connais peut-être un petit peu, pour permettre à des étudiants, justement, d'aller dans d'autres pays, hein, avec des accords internationaux. Hein. Donc, ça s'est beaucoup restreint, là, cette possibilité-là, qui était intéressante, d'aller à un endroit, faire des études, apprendre la langue ou s'améliorer dans la langue, et puis d'avoir une autre vision du monde. Donc, c'est encore un peu possible en Europe, mais pour aller hors de l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. On a l'impression d'une fracture entre l'Europe, on va dire, et le reste du monde. Est-ce que pour toi, ça te semble préoccupant ou pas ?
Oui. C'est encore quelque chose qui a été modifié, enfin, qui normalement, ce n'est pas un sujet de discussion, mais ça l'a été de ce fait.
Mmh. Est-ce que pour toi, connaître d'autres pays, c'est important ? Enfin, au-delà des pays qu'on connaît déjà pas mal, quoi.
Pour la culture, apprendre les cultures d'autres pays, les langues qui sont apprises là-bas, les règles à suivre. Il y a différents codes qui sont différents de la France ou autre chose. C'est une culture à avoir, je pense. Ouais. Mmh.
Et quel serait le pays, sinon la destination de tes rêves ?
Je pense l'Italie.
Oui.
Tout simplement parce que à l'école, j'ai pris comme deuxième langue italien et notre professeur m'a beaucoup vendu du rêve, c'est dire l'expression, de certaines villes, certains monuments, les coutumes qui sont là-bas. J'ai bien envie de les découvrir et de vraiment voir ce qui se passe, si c'est vraiment comme ça, comme le disent les photos.
Bon, ça, on peut imaginer que ce soit assez vite possible quand même pour l'Italie. Hein. Et sinon, des contrées plus lointaines, est-ce que tu en vois une éventuellement que tu aimerais découvrir, en termes de culture aussi ?
Non, pas spécialement, j'ai pas.
On dit que les Français sont un peu... n'ont pas beaucoup de culture en termes de géographie, par exemple. Est-ce que tu as aussi cette impression ?
Oui, par moment, je dirais que oui.
Est-ce que tu penses que c'est lié à certaines, considérations ou peut-être même condescendance que, bon, la France, ça suffit à elle-même, quoi. Elle se suffit à elle-même, c'est un peu ça ?
Je pense que c'est une fermeture d'esprit des Français.
Bon, donc, on l'a vu, l'apport extérieur pour nourrir la réflexion, la culture, hein, c'est évidemment essentiel. On aura l'occasion dans cette émission, si tu restes un peu, je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu es d'astreinte ici, mais on va accueillir tout à l'heure Bonaventure Djami qui va présenter un livre, Casaboua, entre Russes et Racines. Donc voilà, tu vas découvrir un petit peu sa vision de culture africaine, comment il va la restituer dans ce livre, mais il va présenter ça. Parce qu'il est africain d'origine, il a étudié en France, il a été aussi à l'école de journalisme de Lille, donc il est journaliste aussi. Donc ce serait intéressant peut-être si que vous puissiez échanger, ou je ne sais pas, ou avant ou après, hein, pourquoi pas. Mais voilà quelqu'un qui donc, est venu étudier en France et qui a pu s'épanouir et exceller dans son domaine. Là, on est en ce moment un petit peu en difficulté pour accueillir des étudiants étrangers, du fait notamment qu'ils doivent payer des droits d'entrée maintenant supérieurs avant. Quand je parle des étrangers, je ne parle pas de l'Europe, hein, mais des pays extérieurs à l'Europe où il y a des droits d'entrée très conséquents. Et puis aussi des difficultés liées avec le Covid, au financement de ces personnes quand elles arrivent en France. C'est un peu compliqué de trouver le bon moment pour avoir l'argent qui arrive ou pas. Donc il y a un peu de bouleversement par rapport à tout ça. Donc, est-ce que cette idée d'une France accueillante, c'est quelque chose qui t'intéresse, ou est-ce que tu trouves qu'il faut quand même une limite aux choses ?
Je pense qu'aucune limite n'est à mettre. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, en France, c'est que du plus. C'est une culture qui vient, des connaissances qui viennent que nous n'avions pas, et c'est, pour moi, c'est que du plus.
Et dans l'autre sens, ça peut être bien aussi qu'il y ait des échanges justement qui permettent aussi à des personnes françaises d'aller à l'étranger comprendre les choses d'une autre manière.
Oui.
Voilà, donc c'est vrai qu'on est encore dans certains domaines où on a tendance à considérer que ce qu'on fait nous, il n'y a que ça qui soit validable ou validé, je pense dans plein de domaines, hein, même parfois médical. Et donc, avoir un petit peu l'expérience de comment ça fonctionne ailleurs et puis comment les gens vivent ailleurs dans des sociétés. On peut toujours critiquer la manière d'y vivre, mais il y a des sociétés qui fonctionnent malgré tout sans qu'elles aient exactement épousé nos modes de relation. Peut-être ça, c'est aussi riche à découvrir.
Oui.
Voilà, donc il y a certains pays, alors je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure avec notre invité, mais où les personnes âgées sont très respectées, en Afrique par exemple, ou même en Chine. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se perd ou là on a justement redécouvert les solidarités intrafamiliales avec ce problème du Covid ?
Je dirais un peu des deux. Mm-hmm. Parce que certaines personnes âgées, pour moi en tout cas, c'est des connaissances qu'elles ont, c'est du respect qu'il faut avoir envers elles. Mais avec le confinement, certains jeunes ont une certaine fermeture d'esprit qui sont nés en eux et qui fait que, par exemple, ils n'ont aucun respect pour des personnes âgées. Oh.
Donc là, on a vu récemment le problème des EHPAD. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité. Et des sociétés commerciales, on va appeler ça comme ça, qui exploitent ces établissements, qui accueillent des personnes âgées, pour en dégager des profits plutôt que pour les aider à vivre le reste de leur vie. Est-ce que tu penses que ce nouveau champ d'intrusion de l'économie dans le social est quelque chose qu'il faut réguler, maîtriser, modifier ?
Qu'il faut réguler.
Oui,
je veux bien qu'on mette un certain sens de l'argent, entre guillemets, dans la gestion des EHPAD, voilà. Mais faut pas non plus que ça se mette au-dessus du discours qui était de les mettre dans des EHPAD pour finir faire des beaux jours heureux, voilà. Et je pense que ce n'est plus respecté.
Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où tu penses que, d'une manière générale, soit la maîtrise, soit le service public, en fait, prend son importance au vu des nécessités qui sont dégagées là? On voit bien que quand il n'y a plus de lits dans des hôpitaux, c'est un vrai problème.
Oui, c'est un problème. Mais sinon, ça me vient pas tout de suite à l'esprit, mais je pense qu'il y en a.
Donc, quand tu vis, il y a des choses que tu achètes parce qu'il faut les payer, des choses qui sont payées par la société. Bon, on finit tous par les payer aussi, mais je veux dire qu'ils sont offertes au public, on va dire au service public, on va dire ça. Quels sont les domaines où tu penses que il faut augmenter le financement public et d'autres, il faudrait le restreindre. Je peux te donner des exemples. Je ne sais pas si tu vas voir des spectacles.
Oui, j'y vais.
Donc, il y a des spectacles dans des salles conventionnées, par exemple, où tu payes un prix qui n'est pas forcément donné, mais il peut y avoir des tarifs pour les jeunes aussi. Mais en gros, le prix de la place est vraiment beaucoup moindre que le prix réel du coût de la place par spectateur, on va dire, par rapport à l'amassissement des spectacles. Par contre, tu as d'autres spectacles, tu vas dans un café avec un groupe qui joue, là, c'est plus direct, il n'y a pas forcément d'aide, c'est une économie un peu différente, quoi. Est-ce que tu trouves, toi, pour l'instant, dans cette société, un bon équilibre, jusqu'à présent, entre les lieux auxquels on peut accéder, donc à une forme de culture ou de spectacle, et ceux qui sont plus de l'ordre de quelque chose de moins institutionnel et de plus relationnel?
Je pense que c'est vrai que parfois, les prix pour juste avoir de la culture, c'est-à-dire regarder des spectacles, des opéras, tout ça, ça fait partie d'une culture à avoir. Les prix sont de plus en plus élevés, ce qui peut parfois dissuader certaines personnes d'y aller pour des raisons financières. Et En ce moment, les prix au marché, dans le marché économique étaient convenables, mais aujourd'hui, je pense que c'est de pire en pire.
Mmh. Tu as des exemples de prix qui ont augmenté, soit de salles, hein, soit même de concerts où il faut payer plus? Est-ce que ça vaut le coup de payer plus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un abus du côté... Ben, si on parle de football, par exemple, tu vois bien, il y a des joueurs qui ont des salaires assez mirobolants, peut-être un peu excessifs, et forcément, ça fait monter aussi les coûts de ceci ou de cela, quoi, des charges d'une manière générale et des billets d'entrée aussi. Comment tu vois un bon équilibre dans l'artistique, par exemple?
Je dirais que dans l'artistique, certains spectacles, comme par exemple des spectacles de comédie musicale, je ne sais pas combien ils sont payés les comédiens ou quoi que ce soit, mais par exemple les places, je sais qu'elles ont augmenté. Et je sais pas, par exemple, si le budget qui a été mis pour payer
l'artistique,
a été aussi
la production.
Oui.
Si il fallait qu'on te fasse un cadeau de spectacle, où tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Ou qui aimerais-tu écouter?
J'aimerais bien aller voir une comédie musicale.
Oui.
Tout simplement parce que c'est j'aime bien la musique, oui. Et j'aime rire. Je pense que c'est normal. Mm-hmm. Et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de mes proches de voir quelque chose qu'enfin qui fait rire, qui est amusant, bon. Et qui est agréable.
Ce serait une bonne sortie de crise pour
oui.
toi.
Oui.
Voilà, donc on donne le conseil à tes parents, tes amis, ou tu fais peut-être une petite quête, on va s'organiser pour te payer. Est-ce que tu penses à une comédie musicale particulière ou quelque chose qui est international, en anglais ou en français, ou comment tu ressens un peu?
Je pense qu'à partir du moment où c'est une comédie musicale, tout est à apprendre.
Voilà.
Que tout est bien, tout peut faire rire et on peut tous comprendre ce qui se passe. Parce que même si c'est dans une autre langue, on a le spectacle devant nous qui se déroule, on peut imaginer ce qu'ils se disent, ou même quand c'est muet, je pense que c'est tout aussi bien.
Est-ce que tu connais des spectacles en italien qui te passionneraient? Est-ce que tu découvrirais un jour cet univers? Est-ce que tu as déjà un petit peu abordé les choses?
Je n'ai jamais abordé ce sujet.
Alors, si je te donne des noms comme Pavarotti ou des gens comme ça, ça sonne en toi?
Non, pas vraiment.
Non. Tu connais des chanteurs italiens ou des comédiens italiens? Le cinéma italien qui a été un grand cinéma?
Je connais plusieurs titres de films italiens, mais qui m'ont été donnés seulement grâce à une culture que j'ai eue à l'école.
Oui.
Voilà.
Donc ça, tu vas découvrir ça plus tard, j'imagine.
Oui.
Donc un Erasmus en Italie, ça te conviendrait bien. Est-ce que pour toi, justement, avoir un projet clair et bien identifié, ça te crée une volonté qui te permettra d'y arriver plus facilement que de flotter un peu partout?
Oui. À partir du moment où je pense que quand on a un objectif et qu'on veut vraiment, c'est une passion par exemple, on ira à 100%, on se donnera corps et âme pour y arriver.
Très bien. Bah écoute, je vais te souhaiter une belle vie, de toute façon, et puis on peut rester encore un petit moment ensemble tout à l'heure avec notre invité, si tu as le temps. Sinon, bien, on te souhaite une bonne fin de stage à Radio Campus. Merci pour ton intervention.
Je vous remercie.